dama, sa pavio dama, loci dama. Zvijeka prijeću graljama, sa pavio dama, loci dama.
Elles ont des âges différents, des nationalités différentes. Elles ont des opinions différentes, des personnalités différentes. Elles les confrontent pour aller à votre rencontre. Elles en parlent encore tous les quatrièmes samedis du mois, une émission de Vie Féminine Bruxelles sur Radio Panique 105.4 FM.
Bonjour.
Bonjour, vous êtes sur Radio Panique, l'émission Elles en parlent encore, l'émission de Vie Féminine Bruxelles, tous les samedis entre 13 et 14 heures. Donc vous êtes bien sur Radio Panique 105.4. Alors aujourd'hui, nous sommes au complet. Nous avons Alexandra, Mélissa, Patience. Et nous allons vous parler d'une exposition qui s'appelle « Garçon ou fille, un destin pour la vie », une exposition du Carif. Et pour ça, nous avons une invitée exceptionnelle. Nous avons Claudine Maréchal. Alors Claudine, je voulais d'abord te demander ce que c'était le Carif.
Alors le CARIF, c'est le Centre d'archives pour l'histoire des femmes. Alors c'est un centre qui, comme son nom l'indique, donc qu'on conserve des sources pour écrire l'histoire des femmes en Belgique et veut conserver le patrimoine des femmes, le patrimoine historique des femmes, c'est-à-dire les archives des associations féminines et féministes qui ont été actives et sont toujours actives en Belgique. Et donc on conserve les correspondances pour ces verbaux de réunion, etc., mais aussi des images, des photos, des affiches, qui sont chaque fois relatives au mouvement féminin et féministe. Alors par ailleurs, on a pour mission de faciliter la recherche en histoire des femmes et de faire connaître l'histoire des femmes à un large public. Et dans ce cadre, on organise des expositions, on publie des livres sur l'histoire des femmes, sur l'histoire du mouvement féminin et féministe.
Mmh. Alors, on a toutes été voir l'exposition, donc je rappelle le titre de l'exposition, c'est « Garçons et filles, un destin pour la vie ». Cette exposition retrace l'évolution de la féminité et de la masculinité en Belgique. Les hommes et les femmes sont présentés selon des différents modèles et différentes pratiques. Alors, moi, je me demande d'abord, première chose, comment naît l'idée d'une telle exposition ?
Alors, l'idée de l'exposition, bon, elle répond à des objectifs du CARIF de faire connaître l'histoire des femmes à un large public. Elle répond aussi au souhait que nous, en tant qu'archivistes, on a envie de sortir de nos archives, de les valoriser, et donc de montrer les images d'une manière conviviale à un large public. Et puis, eh bien, on est aussi féministe, et donc on voit qu'aujourd'hui, ben, la société a encore beaucoup d'inégalités. Et donc, on a réfléchi comment faire quelque chose qui met en valeur l'histoire des femmes, mais qui est aussi une portée, qui puisse aussi avoir un aspect au niveau d'inciter les gens à réfléchir sur les rôles sexués. Et donc, on a eu l'idée de cette exposition en disant, eh bien voilà, il y a toutes des idées reçues sur ce que doit être un homme, ce que doit être une femme. On va faire une exposition là-dessus. On va montrer que ces idées reçues, eh bien, elles existent actuellement, elles servent à soutenir un modèle de société où les rôles des hommes et des femmes sont encore aujourd'hui souvent distincts. On va remonter dans le passé, on va montrer au public que ces idées, eh bien, elles sont pas naturelles. On croit qu'elles sont naturelles, mais c'est pas le cas. Et donc, on va voir dans le passé, on disait d'autres choses, que ces idées, elles ont évolué, qu'à certains moments, d'autres idées ont été dominantes et puis qu'elles ont disparu, d'autres idées sont nées. On va montrer ça au public, comme ça, on va les inciter à se poser des questions sur les idées actuelles, sur ces rôles qui sont jugés immuables, pour les inviter à dépasser ces injonctions aussi liées au sexe et à réfléchir sur leurs conditions d'hommes et de femmes.
Moi, j'avais une question vraiment, enfin, je dirais presque basique. Je pense que l'exposition commence en 1830 et je me demandais pourquoi.
Alors effectivement, à toute époque, il y a eu des rôles sexués, des rôles qui ont été assignés aux hommes et aux femmes. Alors on a commencé l'exposition après la Révolution française, après à la naissance de la Belgique pour plusieurs raisons. Alors tout d'abord, le 19e siècle, c'est le début d'une société où c'est la naissance d'une classe bourgeoise qui devient dominante avec la Révolution française, avec la Révolution industrielle, et une classe sociale, la bourgeoisie, qui va porter un modèle familial où les rôles des hommes et des femmes sont clairement séparés et exclusifs. Alors le 19e siècle, c'est aussi, après la Révolution industrielle, une société qui va s'organiser différemment avec la production, tout ce qui est sphère productive, le travail, qui est de plus en plus séparé de la sphère familiale. On travaille de plus en plus loin de chez soi. Et donc, on va aussi séparer de plus en plus les rôles sexués. Avant, les hommes et les femmes, ils travaillaient sur une exploitation familiale, ils travaillaient ensemble, le foyer était proche. Alors que là, comme il y a une distinction de plus en plus forte, eh bien, ça va induire aussi des rôles sexués qu'on va rendre de plus en plus exclusifs. Puis, il y a d'autres chose aussi qui explique, il faut dire aussi que notre société est basée aussi sur cette société qui évolue, qui se réorganise après la Révolution industrielle, la Révolution française. Et donc, effectivement, aujourd'hui, notre organisation sociale vient toujours de tout ce qui a été mis en place au cours du 19e siècle.
Donc, on l'a bien compris, 1830, c'est vraiment un moment, je dirais, un moment charnière. Nous, on se demandait aussi pourquoi maintenant faire ce type d'exposition. Quel est l'enjeu? Pourquoi sensibiliser maintenant?
Alors, sensibiliser maintenant, mais on se rend compte que maintenant, il y a toujours des inégalités qui subsistent. Alors, dans l'exposition, on aborde trois thèmes qui font un peu référence au vécu de chacun et chacune d'entre nous. Donc, ça permet de réfléchir à des inégalités qui subsistent toujours dans notre quotidien. On commence par la famille. Alors, dans la famille, on voit que la répartition des rôles familiaux n'est toujours pas égale entre les hommes et les femmes. Les tâches ménagères, on sait que c'est encore les femmes qui les supportent en grande partie. On considère encore que c'est le père qui est le pourvoyeur de revenus et que donc c'est à lui de s'insérer dans la sphère productive, alors que le travail des femmes est peut-être plus subsidiaire, que c'est normal que les femmes aient des temps partiels pour s'occuper des enfants. Au niveau des salaires, on remarque que ça a des incidences aussi. Le travail des femmes au cours du 19e siècle est considéré comme un travail d'appoint, et encore aujourd'hui on se rend compte qu'il y a des inégalités qui subsistent au niveau des salaires. Alors on parle aussi dans l'exposition de l'enseignement. Alors pendant longtemps, l'enseignement n'a pas donné une instruction qui était la même pour les filles et les garçons. On considérait que les garçons avaient à être instruits pour leur insertion dans le monde professionnel, alors que les femmes, les petites filles, eh bien, il fallait avant tout les former à leur futur rôle de mère et ménagère. Et encore maintenant, quand on voit les manuels scolaires, quand on voit l'attitude des enseignants vis-à-vis des garçons et des filles qui sont dans leur classe, eh bien, on voit encore que subsistent des inégalités dans la manière d'appréhender les filles et les garçons, dans les filières qui sont choisies par les filles et les garçons, filières professionnelles, filières dans l'enseignement supérieur. Et donc, des inégalités subsistent. Et donc, cette exposition veut faire comprendre pourquoi, quelles sont les racines de ces inégalités. Et les stéréotypes ont là un rôle tout à fait important.
Alors, on a toutes vu l'exposition et je voulais demander à chacune d'entre vous un petit peu quel effet ça faisait d'être dans cette exposition, de voir ces images, de lire ces textes, parfois de voir les réactions des personnes qui regardaient avec vous cette exposition. Alexandra ?
Oui, bonjour d'abord. Voilà, moi j'ai ressenti beaucoup de colère. Beaucoup d'intérêt d'abord de voir cette exposition parce que il y a des choses que je savais, il y a des choses que je connaissais en gros, mais là, ce qui est intéressant, c'est qu'on est vraiment confronté à la réalité. On a les preuves en quelque sorte à travers les images, les documents, et donc oui, j'étais en colère de voir comment les femmes étaient considérées dans les siècles passés, d'où on venait. Ce qu'il avait fallu faire, puisque moi je suis quand même, j'ai 33 ans, donc je suis quand même d'une génération où il y avait eu des acquis quand même qui avaient été obtenus par les femmes des générations précédentes, et donc de voir d'où on venait les différentes luttes et voilà, et effectivement les inégalités auxquelles je suis encore confrontée, auxquelles les femmes de ma génération et des générations d'après sont encore confrontée. Voilà, ça, c'était se sentir relié aux femmes des générations précédentes et sentir une continuité. Et voilà, c'est ça que je peux dire comme ressenti.
Merci. Toi, Mélissa, tu avais aussi des choses à dire.
Oui, mais à la fois c'était un sentiment donc de voir tout ça. Je me sentais à la fois proche et loin de ce qui était représenté. Proche parce qu'en effet, je viens d'une famille aussi d'ouvriers italiens. Donc dans les générations, ça s'est quand même senti le rôle de la femme plus qui investit le dedans, le rôle de l'homme qui investit beaucoup plus l'extérieur. Et plusieurs mots me sont venus. Je me suis rendu compte à quel point on pouvait camoufler l'être humain de rôles sociaux, de stéréotypes, et moi j'appelais ça des déguisements sociaux en fait, pour pouvoir pallier aussi aux angoisses qui sont inhérentes à chaque être humain, et donc à quel point aussi on peut trouver, s'éloigner de soi et trouver des solutions pour pouvoir faire face à ce qu'on ne connaît pas en fin de compte. Et donc dans ce que j'appelle ces sortes de déguisements sociaux, j'ai l'impression que c'est vraiment des voies pour solutionner, pour trouver un mode d'emploi, en fait. C'est comme les prémices d'une définition. Un homme, ça devrait être comme ça. Une femme, ça devrait être comme ça. Parce qu'en fin de compte, ça se trouve à l'intérieur de soi. Et qu'à toutes les époques, on a peut-être manqué aussi de cette recherche intérieure et de ce temps. Et aujourd'hui, on est aussi proche de ça dans cette société capitaliste, de tout avoir, tout de suite. Je pense qu'on fouille aussi une forme de solitude qui est importante. C'est ce que je pense un peu de... C'est ce que ça m'a fait...
Moi, j'avais envie de te demander, tu nous as raconté que tu avais rencontré des personnes aussi.
Oui, tout à fait. Ce qui m'intéressait aussi dans cette expo, c'est d'entendre les réactions des personnes, et où j'entendais, oui, ça c'est vrai. Donc on a au début de l'exposition, vous pouvez peut-être nous en parler aussi, une sorte de texte qui vient définir l'homme et la femme, donc toujours en opposé. Je sais pas si vous voyez, une sorte de, il y avait l'harmonie. Donc c'est une femme qui disait, oui, c'est vrai. Donc en effet, il y a des choses qui étaient pointées, qui faisaient partie du 19e siècle, c'est ça?
Donc effectivement, l'exposition commence d'une part avec tous les stéréotypes actuels, et puis on en arrive dans la première salle où on parle de la famille, sur les qualifications de qu'est-ce qu'un homme et qu'est-ce qu'une femme. Et l'homme, effectivement, on le définit donc au début du 19e siècle comme un être qui est rationnel, intelligent, fort, courageux et qui est supérieur à la femme. Et on parle des femmes comme des êtres sensibles, émotives et qui sont moins rationnels, qui sont par définition inférieurs à l'homme. Et donc toute la société du 19e siècle va en fait se construire donc sur cette séparation des sexes qu'on considère comme tout à fait différents. Les hommes sont qualifiés de tout à fait différents des hommes et inférieurs aux hommes, alors qu'il suffit de regarder autour de soi pour voir qu'effectivement tous les hommes sont pas pareils, toutes les femmes sont pas pareilles avec ces qualifications. Mais il y a des hommes sensibles et des femmes qui sont rationnelles. Et ce n'est pas lié au sexe.
Alors, patience, d'abord, bienvenue dans l'émission. Et toi, tu as été voir l'exposition aussi. Qu'est-ce que ça t'a fait de manière générale de voir toutes ces images, ces tableaux?
Pour moi, bonjour d'abord et merci. Beaucoup de colère en fait par rapport à cette exposition parce que étant femme et étant jeune femme aussi pour le moment, on se rend pas toujours compte en fait de toutes ces images, de tout ce qu'on a pu, tout ce que les parents, nos mères ont pu vivre. Et aujourd'hui, quand je regarde du début jusqu'à la fin de l'exposition, on voit vraiment une évolution, que c'est vraiment un combat que les femmes ont mené pour qu'aujourd'hui elles puissent, on va dire, acquérir cet espace de liberté qui n'est pas encore une liberté totale. Et que s'il n'y a pas de suivi, s'il n'y a pas un combat qui continue pour nos enfants, pour nous-mêmes, ça va s'éteindre. Parce que le droit des femmes, toutes les revendications qu'il y a eu dans le passé... C'est vraiment énorme pour qu'on puisse travailler, pour qu'on puisse choisir ce qu'on a envie de faire, même dans notre scolarité. On ne se rend pas toujours compte, on se dit que voilà, c'est là, maintenant on prend ça comme tel quel, mais derrière, franchement, j'invite les gens à aller voir cette exposition pour vraiment comprendre en fait ce qui s'est passé et pour sensibiliser les gens à faire attention à ce qu'ils voient chaque jour. Comme ça, on aura, comment dire, on va avoir d'autres perspectives et on aura les yeux grands ouverts sur les problèmes de société. On ne dira pas toujours que voilà, les femmes, on s'en fout un peu. Parce qu'on a, on doit avoir les places, les mêmes places que les hommes. Voilà.
Alors moi, je propose qu'on fasse une première pause musicale. Alors, c'est Zazie. Je ne sais pas quel titre. Bon, ben, ce sera la surprise, voilà. On écoute Zazie.
À ceux qui pensent qu'Ève est seulement une moitié d'Adam, à ceux qui disent qu'elle est la mère de tous les vices, à ceux qui se permettent d'être le seul maître après Dieu, à ceux qui rient, à celles qui pleurent, à ceux qui vont libres comme l'air, à celles qui se tairent.
Zazie aux armes citoyennes. Alors nous sommes à Radio Panique, l'émission Elles en parlent encore. Aujourd'hui nous parlons de l'exposition du CARIF qui a lieu jusqu'au 31 mai au musée Bellevue, filles ou garçons. Ah ben non, c'est garçon et fille, mais moi je sais plus fort que moi, je m'ai toujours fait garçon. Un destin pour la vie. Alors patience, pourquoi cette chanson de Zazie?
Parce que pour moi, les revendications pour les femmes ne sont pas encore terminées. On n'a pas encore atteint l'égalité entre les sexes. Alors pour moi, je pense que c'est vraiment une chanson pour réveiller les gens, en fait, après avoir été voir l'exposition « Garçon ou fille, un destin pour la vie ».
Voilà. Alors maintenant, je vous propose, on a été donc voir cette exposition et on en a chacune ramené des images un peu pour vous parler du contexte un petit peu que raconte cette exposition. Alors toi Alexandra, qu'est-ce que tu nous as ramené comme image?
Alors moi je vous ai ramené deux images parmi les nombreuses qui m'ont marqué. D'abord une image, je pense, qui se passe dans le milieu ouvrier des années 30. On a un homme qui, de manière tout à fait exceptionnelle, fait la lessive. Et comme c'est tout à fait exceptionnel, toutes les femmes sont venues voir ça. Et donc il y a une photo qui est prise de toutes ces femmes qui entourent cet homme qui fait la lessive. Donc ça m'a vraiment, j'ai retenu celle-là. Et alors j'en ai retenu une autre. C'est une publicité qui date de 1969 pour une assurance épargne. Et on voit un homme qui est en costume en nœud papillon, si je me souviens bien, et qui est dans un bocal avec une femme à l'extérieur qui époussette le bocal et un enfant qui frotte également ce bocal avec un chiffon. Et le commentaire, c'est « un chef de famille très précieux ». Et donc voilà, ce sont deux images qui m'ont marquée.
Alors, Claudine, voilà ces images... Ça nous dit quoi sur le modèle familial?
Alors ces images, bien sûr, sont représentatives des rôles qui sont assignés aux hommes et aux femmes à partir du XIXe siècle, où la femme se définit en tant que femme mariée, mère et ménagère, alors que l'homme, lui, se définit en fonction de son rôle dans la sphère publique, dans la sphère professionnelle et en tant que chef de famille. Alors effectivement, on a cette image qui est amusante et qui paraît dans une revue de l'entre-deux-guerres où il y a un homme qui fait la lessive. Alors bien sûr, le travail ménager, on a considéré que c'était une tâche essentiellement féminine. Et donc on va, au cours du 19e siècle, à la fin du 19e siècle, il y a tous des cours qui commence à être donnée aux ouvrières, aux mères de toutes les classes sociales d'ailleurs, pour qu'elles fassent bien leur ménage, parce qu'on considère que un ménage bien tenu, et ce ménage il repose uniquement sur les épaules de la femme, eh bien, est un gage de stabilité sociale, que le mari sera bien chez lui, qu'il n'aura pas envie d'aller au café, qu'il ne boira pas. Et par ailleurs, toute image qui va à l'encontre de ce modèle, donc comme cet homme qui fait la lessive, eh bien, on considère que c'est exceptionnel. On va souvent considérer que c'est contre nature et que ça va être un danger pour la société. Mais on considère aussi, et cette image le montre, que les femmes, finalement, elles apprécient puisqu'elles viennent toutes voir ça. Et puis, d'autre part, l'image où on montre effectivement cet encensement de l'homme pourvoyeur de revenus. Donc, on considère que le modèle, c'est la femme à la maison et l'homme qu'elle gagne pain. Et alors, effectivement, on a intérêt à l'encenser parce qu'une fois que le modèle n'existe pas, une fois qu'il y a un problème, une fois que l'homme tombe au chômage, effectivement, il y a un gros problème dans la famille. Et donc, effectivement, on voit cette vénération de l'homme qui est le chef de famille et qui gagne les revenus, qui protège les siens par les revenus de son travail.
Oui, si je peux dire un petit mot, ce qui m'a frappée, c'est autant la femme qui, effectivement, fait briller le bocal où se trouve le chef de famille, que le fait que cet homme soit enfermé dans un bocal, donc soit vraiment lui, enfin, comme tu le dis, dans un rôle vraiment... voilà, duquel il ne peut pas sortir.
Ah, bien sûr. Et donc, il y a d'autres images, d'ailleurs, là, dans la partie de l'exposition qui est consacrée au travail, qui montrent des images d'hommes chômeurs. Alors, effectivement, on voit que le chômage est ressenti différemment et représenté différemment pour les femmes et les hommes. Pour les hommes, ça pose vraiment un problème pour leur identité, dans la mesure où on considère que l'homme pourvoyeur revenu, il doit travailler. Il doit ramener l'argent au sien. Et donc, une fois qu'il se retrouve au chômage, c'est une catastrophe. Alors que, comme on le voit, la représentation des chômeuses n'a pas du tout la même signification. Je parle bien des représentations. Et donc, on considère qu'une femme au chômage, oui, c'est un revenu d'appoint. Et puis, elle aura bien à s'occuper dans son foyer. D'ailleurs, il y a une citation d'une revue d'un mouvement social qui, effectivement, exprime cette représentation de la femme chômeuse par rapport à l'homme chômeur. Donc oui, il est encensé en tant que travailleur, et une fois que dans la réalité, eh bien, il ne correspond pas à ce rôle, ben, il y a un problème.
Mélissa, toi tu avais ramené d'autres images, d'autres impressions.
Dans la même trame d'idées de définition figée de l'homme et de la femme, il y avait une image, le titre c'est « La famille est à charge du père ». C'est un retour nocturne à la maison, début 19e siècle. Et donc c'est un homme qui va vers l'avant, qui marche, qui porte sur son dos une sorte de panier en osier, un gros panier en osier, suffisamment solide pour porter sa femme et son enfant. La deuxième image aussi, dans la même trame d'idées, c'est un homme qui est debout avec un bouclier rouge qui protège la femme qui est derrière lui, toute petite, toute vulnérable, toute fragile qu'elle est. Donc de pierre, donc qui protège vraiment l'intérieur, le dedans, des soi-disant difficultés du dehors. Et ce que j'ai relevé dans ces images, c'est le sens que ce bouclier, ce panier ont, c'est peut-être justement le fait de, encore une fois, trouver des alternatives pour que l'homme et la femme se sentent suffisamment sécurisés. Parce que j'ai l'impression que ce qu'il y a derrière, ce sont les besoins de protection de chacun. Et que c'est comme si on ne pouvait pas se protéger sans un homme ni sans une femme. Donc on ne pouvait pas exister sans être femme d'eux ou mère d'eux. Et donc, quelque part, la femme en tant que telle, en tant que personne, l'homme en tant que tel, fait cruellement défaut. On reste vraiment dans une forme de camouflage. Et j'aimerais lire un texte qui est en association un petit peu avec cet ordre d'idées. Et entre autres avec l'arbre généalogique, il y a au tout début dans une salle un arbre généalogique qui montre comment un homme vieillit. Ces images, c'est l'homme vieillit seul et la femme vieillit toujours en compagnie d'un enfant. Elle n'est jamais vraiment représentée comme étant une femme seule qui s'assume. Quand on dit solitude, c'est aussi des amis, un couple, etc. Mais qui peut aussi se recueillir chez elle. J'ai pris ce texte d'un livre, La définition sociale de la femme à travers la publicité, de 1993. C'est Françoise Giraud qui rappelle le vœu d'une des sœurs de Brontë. Ce sont des griefs justifiés d'une mère qui exprimait bien dur la condition féminine cachée. La chambre à soi est un luxe inconnu dans la vie d'une mère de famille, en ce qu'elle est le symbole de la possibilité d'isolement, de concentration, de calme nécessaire à l'épanouissement des facultés créatives. On crée seul dans une cave sans feu, à la lumière d'une bougie. Mieux que dans une pièce harmonieuse et conforme où l'on vit cerné par les autres, par la voix des autres, par le silence des autres, par ce qu'ils attendent de vous, par ce qu'on leur doit. Qui dit création artistique, intellectuelle, politique, scientifique, dit concentration. Qui dit enfant, dit dispersion. Même si les enfants sont merveilleux, c'est vrai que je trouve que ça fait partie aussi des bénéfices secondaires de la femme qui parfois a tendance à excuser aussi, par manque d'habitude aussi, de ne pas prendre ce temps pour elle. Voilà.
Mm-hmm. Claudine, tu as quelque chose à ajouter ?
Alors effectivement, il y a toute une série d'images dans l'exposition qui montrent effectivement ces rôles figés avec la femme qui doit avant tout être mère, ménagère et épouse aussi, et l'homme qui doit être avant tout le chef de la famille, protéger la famille. Et conséquence, évidemment, il y a eu des conséquences fondamentales dans le statut des hommes et des femmes, dans le cadre légal, dans la manière dont les femmes et les hommes ont été instruits, etc. Mais évidemment, ce qui est important de dire aussi, c'est qu'il faut dépasser ces images. Dans l'exposition, on montre aussi toutes des images de la réalité. Et on voit que dans la réalité, notamment avec des statistiques qui portent sur l'état civil des femmes à Bruxelles en 1842, eh bien, on se rend compte que la femme protégée par son mari, eh bien, c'est l'état de fait d'une minorité de femmes, puisque la majorité des femmes sont soit célibataires, soit veuves, soit séparées, divorcées. Et donc, effectivement, on voit que la plupart des femmes, à cette époque-là, évidemment, dans une grande ville, on ne peut pas généraliser ces chiffres à l'ensemble de la Belgique, mais on voit que c'était loin de correspondre à la réalité, que beaucoup de femmes travaillaient au XIXe siècle, que ça allait de soi dans les milieux ouvriers, que les femmes travaillent, dans le monde agricole aussi, dans le petit commerce aussi. Donc, ça ne correspond pas à une réalité. On a voulu que les femmes et les hommes adoptent des rôles. Et donc, il y a eu aussi toutes des campagnes de vulgarisation, toutes des campagnes d'éducation des femmes à ces rôles qu'on voulait qu'elles adoptent. Mais dans la réalité, il y a eu toute une... elles ne voulaient pas, parce qu'elles avaient d'autres activités qui n'étaient pas conformes. Et donc, il y a eu toute une résistance.
C'est intéressant, je trouve. Patience, toi, tu nous as ramené des images, je pense, qui parlaient plus de l'école, des relations filles-garçons à l'école. Enfin, voilà, parle-nous de ça.
Moi, j'ai relevé des images d'une cour séparée, donc une cour pour filles, une cour pour garçons. La conduite dans les établissements scolaires était que les filles arrivent plus tôt pour aller en classe et ne pouvaient pas jouer dans la cour de récréation. Les garçons pouvaient jouer dans la cour et en classe, ils ne pouvaient pas se parler. Ils se parlaient pendant les intercours. Et à la fin des cours, les filles sortaient plus tôt pour ne pas rencontrer les garçons sur le chemin. Ils devaient prendre des transports, on ne va pas dire individuels, mais ils se partageaient le tram, les garçons dans le wagon suivant et les filles dans le premier wagon. Et je me dis, des choses comme ça ont existé, alors qu'aujourd'hui, on voit des filles et des garçons dans la rue, ils parlent... ils vont manger ensemble, ça dérange plus personne. Mais avant, c'était vraiment pas ça. Et les filles, des fois, je pense qu'elles se rendent pas compte qu'il y a des choses qu'on fait aujourd'hui qu'avant, on risquait de se faire lapider ou je ne sais pas quoi. Et ça m'a vraiment touchée parce qu'on est là, on est libre, on va dire. On a une liberté et on profite pas souvent de ce qu'on a aujourd'hui. Donc par rapport à la scolarité, aujourd'hui, on peut choisir ce qu'on veut faire, le métier qu'on veut faire, d'aller ou ne pas aller à l'école. Et avant, on était obligé de faire le ménage, d'être des bonnes mamans, entre guillemets. On était consacré même dans les études à s'occuper du foyer, du ménage. Et aujourd'hui, on peut faire des études aussi valorisantes que les hommes avaient à l'époque, être avocate, médecin. Et je sais pas, pour les femmes, elles devraient quand même regarder en fait ce qui s'est passé dans le passé pour voir encore plus loin dans l'avenir.
Oui, je pense qu'il faut aller voir plus loin dans l'avenir et ça va être d'ailleurs le thème de la prochaine partie d'émission. Mais avant, on va quand même faire une petite pause musicale et cette fois-ci, ce sera en compagnie d'Edith Piaf. Voilà.
Des murs fanés, des jours sans joie, rideaux passés, un lit trop froid, un cœur par-ci, un cœur par-là, et des soucis, des embarras.
Alors, c'était Pour moi toute seule d'Edith Piaf. Et alors, pour vous tout seul, eh bien, on continue l'émission Elles en parlent encore, émission de Vie féminine Bruxelles, le samedi entre 13 et 14 heures. Donc, nous parlons aujourd'hui toujours de l'exposition Fille ou garçon, un destin pour la vie, qui a lieu au musée Bellevue jusqu'au 31 mai 2009. Donc, maintenant, on va plus revenir, je dirais, vers le présent et un petit peu voir ce que cette exposition nous amène par rapport aux questions qu'on a maintenant. Donc, c'est vrai qu'il y a des images qui choquent et puis qui font écho à d'autres images. C'est vrai que, par exemple, il y a l'image... prise dans une cour de récréation en gardienne où les enfants sont déguisés et les petites filles sont en infirmière, les petits garçons sont tous en soldats. Et moi, je me dis que quand c'est carnaval dans les classes de maternelle, les filles sont en princesse et les garçons sont en super-héros. Et puis aussi, il y avait une photo où on voyait clairement deux classes en secondaire avec des options très différentes. Et je me demandais si nous, on ne vivait pas aussi ce genre de situation où avec des choix d'options qui, même s'ils sont libres, restent très stéréotypés. Toi, Alexandra, tu avais des choses à dire là-dessus.
Ben oui, enfin moi j'étais frappée par, à la fin de l'exposition, il y a un tableau qui reprend le pourcentage des professions, des hommes et des femmes dans les différentes professions, et je crois que c'est un tableau très récent, des années 2000, je n'ai plus la date exacte, mais... on voit que les femmes sont encore cantonnées dans certaines professions et les hommes dans d'autres aussi, et qu'il y a des professions auxquelles les femmes ont accès, mais elles n'y sont pratiquement pas représentées. Et c'est vrai que les professions de secrétaire sont encore majoritairement exercées par les femmes, et les d'autres professions... les conducteurs de tram, ou j'ai plus en tête... d'autres professions, mais majoritairement exercées par les hommes. Et donc, moi, ça m'a frappée parce que ça, c'était tout à fait actuel. Malgré qu'on ait accès à des formations, tout le monde a accès à un enseignement, voilà. Il y a encore des... Enfin, pour moi, ça fait partie des stéréotypes qui sont ancrés en chacun de nous et qui continuent à travers ça.
Oui, et puis parfois aussi, je pense, la façon aussi de se dire que certaines choses sont naturelles pour des femmes, et donc d'aller vers les métiers de la puériculture, de la couture. Bon, c'est pas toujours non plus des emplois qui sont porteurs de reconnaissance sociale et ou même d'emploi quand c'est la couture, quoi. Par rapport à la situation actuelle des combats qui sont montrés dans l'exposition et le va-et-vient avec le présent, vous avez des choses à dire ?
J'ai l'impression qu'on a quand même bien évolué, en tout cas dans ma génération à moi. J'ai l'impression que les tâches, par exemple, au niveau de l'équilibre, l'investissement de l'intérieur est quand même beaucoup plus équilibré qu'avant. Qu'au niveau de l'accès à la profession, c'est qu'il y a aussi beaucoup plus... Enfin, je viens un peu contredire ce qu'Alessandra vient dire, mais j'ai quand même l'impression qu'il y a de nouveau plus d'ouverture et de souplesse, en fait. Mais qu'en fin de compte, les problèmes sont déplacés. Donc, quand on parle de camouflage, d'identité figée... donc par exemple le père, l'homme, le père, la femme, la mère, etc. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, donc ça a été des solutions pour pouvoir se définir en tant que personne, parce que en effet c'est pas facile de faire face à la vie et de savoir se situer, qui on est en fait, qu'est-ce qu'on fait dans sa vie, quel est le sens de notre vie. Et donc je pense qu'on trouve chacun des solutions, que la société en a trouvé aussi, et qu'aujourd'hui c'est par exemple le capitalisme, c'est par exemple la surconsommation, c'est Donc, on a évolué dans quel sens? En tout cas, pour le moment, c'est pas dans un meilleur sens, parce qu'on est quand même en pleine crise, on détruit quand même la nature. Donc, je trouve qu'il y a quand même, en tant que femme et homme ensemble, même au-delà du sexisme, il y a encore des choses qui se répercutent, qui sont dramatiques, en fait. On est,
Voilà. C'est vrai qu'à Vie Féminine, on travaille beaucoup aussi le rapport entre sexisme, la domination d'un sexe sur l'autre, le capitalisme, la domination de ceux qui ont de l'argent sur l'autre, et le racisme, qui est aussi la domination d'une race par rapport à l'autre. Et ça, je pense que c'est vraiment des enjeux fondamentaux. Claudine, je voyais que tu prenais des notes.
Oui, en fait, effectivement, ces statistiques qu'il y a à la fin de l'exposition, il y a beaucoup de gens qui les regardent avec beaucoup d'intérêt. Alors, elles datent effectivement de 2006, donc c'est la répartition des professions. Et les gens sont étonnés, ils disent, mais enfin, comment ça se fait? Vous êtes sûrs? Vous n'êtes pas trompés? C'est encore comme ça maintenant? On dit, mais oui, ce sont des chiffres, ils sont issus de l'Institut National de Statistique, ils sont officiels, effectivement, on ne s'est pas trompé. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, dans les choix, maintenant, on est libre de ces choix, mais on est aussi conditionné dès l'enfance par les jouets qu'on reçoit, de par la façon dont les parents nous projettent dans l'avenir, pour les projets qu'ils ont pour leurs enfants. Et puis en classe, eh bien, c'est peut-être pas facile finalement. Oui, c'est peut-être facile de choisir un projet qui est de vie qui est en concordance avec les rôles. Et donc, alors effectivement, on peut avoir une paix intérieure si on choisit une profession qui est qualifiée de féminine et qui ne portera pas de problème vis-à-vis dans son environnement familial ou social. Évidemment, quand on est confronté à ces rôles, c'est beaucoup plus difficile d'avoir un choix de vie qui n'y est pas conforme à ces rôles. Et donc, effectivement, maintenant, on a l'impression qu'on est libre de ses choix, mais je pense que ce n'est pas le cas dans tous les milieux, loin de là, et qu'effectivement, une fille ne peut pas faire n'importe quelles études, un garçon non plus, sinon il devra lutter contre ses préjugés. Et ce n'est pas évident d'être un homme sage-femme, comme ce n'est pas évident d'être une femme maçonne. Et donc, effectivement, on a la liberté d'entreprendre les professions qu'on veut, mais non, on n'est pas libre parce que on n'est pas prêt, nos mentalités ne sont pas prêtes à accepter, même si dans les lois, on est effectivement libre de faire ce qu'on veut.
C'est vraiment tout à fait ça que j'ai ressenti en voyant ce tableau. C'est, voilà, les acquis qu'on a eus, d'où on vient, et ben non, c'est pas aussi simple que ça. Il y a, voilà, des... C'est tellement ancré dans la société que ça se poursuit.
Mais on ne fait pas table rase d'un passé de 2 siècles non plus du jour au lendemain. Donc il faut du temps aussi pour changer les mentalités, pour changer les choses. On a déjà beaucoup changé. Il y a encore du travail.
Et oui, toi Patience, tu nous disais qu'on devait vraiment respecter le combat et se profiter de la chance qu'on avait. Tu disais aussi qu'on pouvait peut-être choisir toutes les études qu'on voulait. On remet ça un tout petit peu en perspective. Tu as envie d'ajouter des choses?
Non, mais quand je dis qu'on peut choisir toutes les études qu'on veut, c'est pas vraiment toutes les études. C'est on peut étudier au même titre que les hommes. On peut avoir un diplôme valorisant au lieu de faire toujours tout ce qui est axé sur le ménage et tout ça. Mais il y a des études, je sais que voilà, ça sera difficile. On verra moins de filles qui veulent faire de la plomberie. Et on verra moins aussi un homme qui veut faire, je sais pas moi, du massage ou de l'esthétique. C'est parce que, comment dire, on est déjà confiné dans nos rôles depuis qu'on est petit. C'est des images qu'on voit à la télé, qu'on voit dans les maisons. Donc pour que ça puisse disparaître, c'est aussi que les gens doivent travailler à ce que chacun puisse faire ce qu'il a vraiment envie, qu'il puisse pas vraiment suivre tout ce qui vient de la société aussi. Parce que comme ça, je pense que ça ira nettement mieux. Que chacun choisisse sa voie et pas regarder toujours à la société, même si on sera mal jugé. Mais bon, les combats sont faits pour ça aussi.
Et oui, je crois que ça reste quand même malgré tout un combat. Je vous propose de déjà penser à une pause musicale avec cette fois-ci Linda Lemay. Non, Linda Lemay n'est pas prête, alors on va continuer. C'est vrai que toujours un peu sur le même thème, on avait discuté entre nous des avantages et des désavantages d'être homme et d'être femme. Les avantages étaient ce qu'il y avait pas tellement, ce qui faisait qu'on n'avait pas tellement envie d'avancer, de remettre les choses en question. Et puis les désavantages, ce qui provoquait l'envie de changer. Et je racontais l'anecdote que quand on faisait cet exercice avec des garçons, que je leur demandais quels étaient les désavantages qu'ils avaient, en fait, ils n'en voyaient d'emblée pas beaucoup, et que c'était vraiment tout un travail d'arriver à admettre que ça pouvait être un désavantage d'avoir cette pression de ramener l'argent. Ben oui, encore, on voit ça dans l'exposition, mais encore maintenant, beaucoup de garçons disent moi, je dois ramener l'argent, je dois réussir. Et cette pression-là reste sur leur épaule et c'est pas facile, surtout en période de crise, comme tu dirais, toi, Mélissa. Il y a aussi le fait d'être obligé d'être fort, c'est pas toujours facile, mais et on se disait que si on ne sent pas l'inconfort de la situation, parfois on n'a pas envie de changer. Donc je sais pas si l'une d'entre vous a envie de réagir par rapport à ça.
J'ai envie de dire que c'est qu'en fin de compte, les manifestations des valeurs sociétales se rapprochent aussi du fonctionnement typiquement humain. Donc quand on a appris à fonctionner pendant 20 ans d'une même façon, que ça nous apportait bénéfice quand on était petit parce qu'on avait ce fonctionnement-là, et heureusement quelque part, et qu'on s'aperçoit que ce fonctionnement-là n'est plus adéquat aujourd'hui, qu'on se sent un peu étriqué, étouffé dans certains schémas. Mais pour pouvoir lâcher ça, il faut aussi se rendre compte des raisons d'être de ces stéréotypes, de ces rôles, de ces identités, et qu'on peut pas changer sans avoir cette conscience-là. Donc c'est vrai que c'est un travail, je trouve, qui a pris beaucoup d'années, qui reste très délicat en fait, parce qu'on touche vraiment à ce qu'on a été habitué en fait. Et je vais peut-être revenir là-dessus sur l'exemple que j'ai de personnes que j'ai rencontrées à l'exposition. Ce sont des personnes âgées, des années 30. Il a été posé, donc c'était un homme qui travaillait dans les assurances, et là, il pouvait faire partie d'un cadre, donc d'un statut plus élevé, et la seule condition qui était posée, c'était que sa femme ne travaille pas. Et en fin de compte, ils ont accepté, et quelque part, cette femme qui était professeure avant, qui a déménagé, m'a dit, mais bon, moi ça m'a plu de m'occuper de mes enfants et de ma maison, parce qu'en effet, ça allait difficile de trouver du travail dans une autre région, alors que je connaissais personne. Donc je crois que toute situation apporte, comme tu dis, des bénéfices secondaires, et que c'est parfois plus confortable d'être un peu dans des carcans que de bousculer un peu tous ces cadres, ces repères, ces modes d'emploi. Donc, oui.
Ben, moi, je voudrais rebondir par rapport à ce que dit Mélissa, justement sur le fait d'être dans des carcans et la difficulté à les bousculer. Je pense qu'en tant que féministe et en tant que mouvement féministe, on a envie de bousculer ces carcans et de faire bouger les choses, et on se heurte à de fortes résistances et à cette peur, justement. Et donc, on parlait le fait de ne pas voir les désavantages à être homme, et en fait, on en a bien parlé, Hélène, et moi, j'aspire, et je trouve que vraiment, ça, ce serait quelque chose qui pourrait être vraiment porteur, c'est de dépasser ces peurs et de pouvoir que finalement, hommes et femmes confondus combattent ces stéréotypes qui desservent autant l'un que l'autre, et je trouve dommage que le féminisme soit encore vu comme entre guillemets effrayant par certains hommes, pas tous, mais par certains hommes.
Ça nous ramène à l'image de ton homme dans un bocal qui était lui aussi emprisonné tout autant que la femme qui frottait. Voilà. Alors Tamara, est-ce que Linda Lemay est là? Alors on va l'écouter. Oui. Merci Tamara.
Mon père est un filet, tout tendre et tout mignon. Ma mère est un navet, elle plaît pas à tout le monde. Ma grand-mère est une soupe, une vieille soupe au lait. Elle a marié une nouille, ils ont fait un navet. Ma tante, elle est une tarte, une grosse tarte aux bacanes. Elle a eu trois tomates de différentes bananes. Je connais aussi un œuf en voiture sport, qui promène son bacon et sa saucisse de porc. Et moi, je suis du poudin.
Bon, ben, on va devoir couper les Linda Lemay parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps pour terminer cette émission et qu'on a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à dire. Alors, dans l'exposition, on parle beaucoup du mouvement féministe. On voit des personnalités marquantes. On parle du rôle du mouvement féminisme dans la remise en cause des inégalités entre les hommes et les femmes. Le mouvement féministe pointe des stéréotypes, les préjugés présents afin de dévoiler la domination sexuelle de l'école. On y parle de l'évolution. Et puis maintenant, quelle égalité pour maintenant? Quels sont les combats encore que les féministes ont apportés pour aller vers quelle valeur? Qu'est-ce que ces images du passé reproduisent vers aujourd'hui? Voilà.
Oui, moi, évidemment, il y a encore plein de choses à faire. Et je trouve que les mouvements féministes ont leur place plus que jamais. Et je trouve ça intéressant de mettre le combat contre les inégalités de le replacer dans le contexte, comme on disait, par rapport au système capitaliste. Et voilà, donc pour moi, le sexisme s'inscrit vraiment dans ce système-là. Donc, c'est pas seulement de manière isolée qu'il faut voir. Voilà, l'égalité des salaires est encore actuelle, mais il faut la mettre en lumière avec un plus grand partage des tâches. Et tout ça, c'est des revendications qui peuvent être portées aussi au niveau politique pour avoir une politique de la natalité, avoir plus de crèches, le statut des accueillantes. Donc, ça me semble global comme combat et pas de manière isolée. Donc, voilà, je pense pas qu'on puisse isoler une revendication d'une autre.
Tout est lié. J'ai envie de dire aussi, donc Vifini propose des fonctionne par atelier, par groupe. Et donc c'est d'autant plus important de maintenir justement ce rassemblement de personnes, de femmes entre autres, pour penser autrement, pour prendre le temps de s'asseoir, de partager aussi, prendre le temps de se trouver, se perdre, se retrouver. Et justement arriver à penser un monde, une société que l'on sent. Je pense que c'est essentiel de revenir à quelque chose de simple et d'émotionnel aussi, parce qu'il y a comme ça qu'on pourra construire ensemble.
Oui, alors Patience, toi qui es au début de tous ces combats, tu as des choses à dire?
Ben, par rapport à ces images, qu'est-ce qu'elles produisent encore aujourd'hui? C'est que c'est... On se bat en fait pour que ces images ne soient plus aussi ancrées, mais les gens continuent quand même à les réutiliser malgré la sensibilisation, malgré tout ce qu'on peut encore dire. Il y a encore beaucoup de gens qui, malgré tout ce qu'ils voient, tout ce qu'on peut encore donner comme information, ils retournent encore en arrière pour apporter ça chez eux et continuent à ancrer ça en fait. C'est comme si on plantait quelque chose et qu'on venait encore arracher. Donc c'est pas qu'on fait que c'est un travail fait en vain, mais quand même quoi. Il faut continuer encore à parler pour que les gens puissent comprendre que les garçons peuvent pleurer et que les femmes peuvent aussi se battre et se comporter comme des hommes. Et c'est pas pour autant qu'ils seront qualifiés d'être garçons manqués. C'est juste, voilà, on est des êtres humains, chacun a ses faiblesses. Et il faut accepter que l'homme et la femme puissent être faibles ou forts. C'est tout.
Claudine?
Alors, oui, alors effectivement, il y a encore beaucoup de choses à faire pour changer les mentalités. Et donc exposition, on espérait justement que les gens se posent des questions sur ces rôles qu'ils ont intégrés et qui ont eu beaucoup d'inconséquences sur leur vie, sur la manière dont ils ont vu leur avenir et ont construit leur identité. Alors effectivement, il faut beaucoup travailler sur les mentalités, beaucoup montrer qu'il n'y a pas des rôles qui sont absolument intangibles, qu'il faut essayer d'aller vers une société égalitaire où chacun et chacune peut s'épanouir selon ses goûts, selon ses attitudes et pas selon son sexe.
Voilà, ben c'est un fameux défi. Alors, on va terminer cette émission en vous remerciant toutes, Claudine Maréchal du CARIF, en rappelant que l'exposition a lieu au Musée de Bellevue jusqu'au 31 juin. Tamara, merci pour... 31 mai. Tamara, merci pour la technique. Et puis, on se retrouve dans 15 jours, probablement sur une émission qui va vous raconter une expérience de théâtre et de prise de parole des femmes. Et puis, encore 15 jours plus tard, par rapport aux élections, on va vous raconter une expérience de sensibilisation autour des élections à la Maison Mosaïque d'Etterbeek. Voilà, bon week-end à vous et bien, au revoir.
Elles ont des opinions différentes, des personnalités différentes. Elles les confrontent pour aller à votre rencontre. Elles en parlent encore tous les 4e samedis du mois, une émission de Vie Féminine Bruxelles sur Radio Panique 105.4 FM.